Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On salue ce matin la publication d'un livre remarquable qu'on doit à Cézine Topchu. Et le titre nous indiquera que nous restons dans le sujet qui était déjà le nôtre la semaine dernière. Il s'intitule « La France nucléaire, l'art de gouverner une technologie contestée ». Il est publié aux éditions du Seuil. Cézine Topchu, vous êtes sociologue. Vous faites partie d'un laboratoire à l'EHESS, le centre d'études Marcel Mauss. Et à l'inverse de nombre d'études qui ont été faites sur le mouvement nucléaire ou antinucléaire, vous vous êtes intéressé non pas spécifiquement à la contestation ou aux institutions, mais vous vous êtes intéressé à l'interaction entre les deux et à cette façon que les deux ont eu de finalement s'influencer réciproquement. Mouvement antinucléaire, institutions nucléaires, à ceci près que les armes n'étaient pas égales, et cela dès le départ. Alors le départ du nucléaire civil en France, on a souvent tendance à le dater du programme Messmer, 1974, on est juste après la crise pétrolière, et le gouvernement réagit très vite, très efficacement, pourrait-on dire, à cette crise qui s'annonce en lançant un immense, massif programme de construction de centrales nucléaires. Il y en avait 200 de prévus au départ. Et là, je dis que les armes ne sont pas égales, puisque, en fait, nous n'avons pas toutes les cartes en main, on ne sait pas tout.
Tout à fait. En fait, la crise de 1974 sert véritablement de prétexte pour donc accélérer la mise en place d'un programme nucléaire déjà engagé dès les années 50 et 60. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, la France est déjà un pays nucléarisé, en fait, un pays doté d'un programme militaire puissant. Dès les années 50, ainsi se mettent en place les premiers réacteurs nucléaires, d'abord destinés à la production de plutonium, donc à Marcoule. Ensuite, viennent les centrales de Chinon et de Brennilis. La France, dès cette période d'ailleurs, tente de construire donc, une usine d'enrichissement de l'uranium à Pierrelatte. Et à partir du milieu des années 60, elle s'ambitionne réellement donc, à construire sa grandeur industrielle après avoir donc, construit sa grandeur militaire. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs qu'on assiste à l'adoption de la filière à eau légère qui va servir de technologie donc, pour le programme nucléaire de 1974.
Donc, filière à eau légère, qui est donc une filière américaine, ce qui d'ores et déjà tranche avec les ambitions affirmées et affichées de grandeur industrielle et d'indépendance de la France, puisqu'on avait une filière française, la filière à graphite gaz, et elle n'a pas été choisie.
Elle n'a pas été choisie parce que la filière américaine s'est avérée en fait à la fois plus rentable, donc plus compétitive et à la fois plus adaptée à une construction à grande échelle. Et c'est dans ce cadre-là que d'ailleurs, après une bataille des filières entre CEA et EDF, EDF va gagner donc, l'arène industrielle pour donc, s'imposer en tant qu'acteur principal du nucléaire en France.
Mais donc, selon vous, Cézine Topchu, l'hypothèse habituelle selon laquelle on se serait lancé en France dans une électricité nucléaire civile pour pouvoir justifier et poursuivre le programme nucléaire militaire, ça ne serait pas exactement ça.
Ça ne serait pas exactement ça. En fait, l'idée qu'il faut retenir, c'est plus l'ambition plus affirmée de la France pour devenir le numéro un du nucléaire dans tous les domaines que ce soit.
C'est ça, en fait, une ambition plus large encore que celle qu'on imagine.
Absolument. Donc militaire d'abord, qui était déjà achevée donc, jusqu'en 1914. Ensuite, industrielle, concernant tous les cycles de combustible, donc de l'extraction de l'uranium à son enrichissement, à la production d'électricité, à la surgénération, au retraitement. Donc l'ensemble du cycle du du nucléaire devait être maîtrisée et aussi exportée d'une certaine façon par la France. Et c'était toute l'ambition de la France, se voulant un pays hautement technologisé, donc par son nucléaire, par son savoir-faire nucléaire, dans cette phase de modernisation, donc issue de l'après-guerre.
Une ambition donc assez mégalomaniaque, on peut le dire, puisque je citais ce chiffre qui vient de vous d'ailleurs, des 200 réacteurs nucléaires, enfin qui vient de vous, que vous avez retrouvé.
170 réacteurs nucléaires. Donc ouais. En fait, le plan Messmer prévoyait la construction d'environ 170 réacteurs nucléaires jusqu'en l'an 2000. On en est à 58 actuellement, et cela suffit pour faire de la France le pays le plus nucléarisé au monde.
Alors, ce que vous soulignez très bien dans votre livre, c'est d'une part qu'effectivement, ça a entraîné un certain nombre de glissements, dont celui que vous venez d'évoquer, le fait qu'on est passé à une filière américaine, le fait aussi qu'EDF a passé des partenariats avec des entreprises privées, EDF, la grande entreprise nationale, nationalisée, nationaliste de la France, qui, des décennies avant la libéralisation de l'économie, s'est intéressée donc à cette économie de marché qui pointait son nez, mais que personne n'avait encore vu. Alors, personne ne l'avait vu. Le public, peut-être, n'était pas encore non plus tout à fait conscient du risque d'accident, mais en haut lieu, ce risque d'accident était déjà perçu et il avait entraîné un autre glissement que je trouve tout à fait important et intéressant, un transfert de responsabilité. Et ça, dès les années 60 ?
Dès les années 60, en fait, dès 1957, d'abord aux États-Unis, donc une loi est promulguée pour instaurer la responsabilité civile limitée des exploitants. Loi sans laquelle l'industrie nucléaire américaine ne pouvait pas s'investir en fait dans ce domaine nucléaire, précisément parce que les risques d'accident ont été calculés donc par un groupe d'experts de l'Atomic Energy Commission américain dans une posture extrêmement alarmante, hein, c'est-à-dire avec des dégâts aggravés. Nécessitant l'évacuation de millions de personnes et donc des indemnisations qui allaient avec. Et dans ce cadre précis, l'État américain s'était précipité donc pour mettre en place le Price-Anderson Act qui plafonne en fait la responsabilité civile des industriels. Un montant donc important à l'époque, c'était 60 millions de dollars, au-delà duquel l'État américain s'engage lui aussi donc pour combler le reste de sommes à investir pour les compensations. Et c'est ce même cadre qui va être repris donc par l'Europe nucléarisée ou en train d'être nucléarisée à l'époque, en 60, puis en 68, la France elle-même va en fait mettre en place sa propre loi de responsabilité civile dans le domaine nucléaire. Donc déjà en 68, on a cette loi-là qui va permettre effectivement le lancement de l'industrie. On n'a pas attendu 74.
C'est-à-dire qu'on fait tout pour attirer les investisseurs, pour les rassurer, leur expliquer que même en cas d'accident et d'accident très grave, ils n'auront pas à payer au-delà d'une certaine somme. Bon, 60 millions de dollars, c'est une somme importante, dites-vous, mais quand on pense au coût réel des accidents qui ont eu lieu depuis, on s'aperçoit que c'est absolument ridicule et on aura certainement l'occasion de revenir sur ce point. Je le disais, le public n'est peut-être pas tout à fait informé ou conscient des risques d'accident et de fait, le programme nucléaire démarre dans une ambiance attentiste, étonnée, inquiète, fascinée, admirative.
On pourrait dire fasciné, admiratif, parce que un espoir fou en fait a été attribué donc au nucléaire dans ce cadre précis de crise énergétique, crise pétrolière. Le nucléaire devait à la fois donc assurer, selon les promoteurs du programme nucléaire, l'indépendance nationale de la France, un argument qui aujourd'hui a un nouveau cours et qui est un des arguments principaux donc soutenant l'énergie nucléaire. Et d'autre part, on est à l'époque dans un contexte où on vante très profondément l'énergie nucléaire en tant que l'énergie bon marché, parce que précisément en 1974, l'État, à travers ses groupes d'experts, notamment la commission Payon, donc la commission qui était chargée d'évaluation économique du programme électronucléaire, met en avant la super compétitivité de l'énergie nucléaire face à d'autres sources d'énergie.
Et vous ajoutez, Cécile Topchu, qu'elle met en avant des chiffres de prévisions de consommation qui sont absolument ahurissants, c'est-à-dire qu'on surestime de manière démesurée la consommation des années à venir pour, là encore, justifier l'ampleur du programme.
Tout à fait. C'est avant tout, en effet, un design d'une société de consommation voulue en tant que telle et jugée notamment nécessaire pour la mise en place à grande échelle des centrales nucléaires, puisque qui dit production à grande échelle, production de masse, évidemment dit une consommation de masse qui n'existait pas encore, en tout cas pas au même niveau que ce qu'on observait notamment aux États-Unis. Donc l'ambition principale des experts de l'époque était en fait de pouvoir élever le consommateur français au même rang que le consommateur américain. Et là, il fallait effectivement booster d'une certaine façon la consommation, et le chauffage électrique par exemple était un moyen presque parfait pour y parvenir. Dès 65, la commission Peillon misait sur l'équipement d'environ 3 millions de chauffage électrique en France jusqu'en 85. Pour ensuite, évidemment, généraliser encore plus cela, puisque à l'époque, on parlait de 100% d'électricité d'origine nucléaire, on en est à 75% actuellement.
Donc, tout est prêt, ou pratiquement. Peut-être deux mots sur les acteurs du nucléaire. Qui sont-ils ? On a parlé, on a cité EDF, on peut peut-être citer le CEA également, et rappeler les rôles des uns et des autres, et puis les ministères, bien entendu.
EDF donc devait être le maître d'œuvre du programme électronucléaire, et elle est devenue évidemment en fait du parc nucléaire tel qu'on le connaît. Le CEA donc était démuni de son rôle de pionnier en fait dans le domaine nucléaire avec l'abandon de la filière française de graphite gaz, mais par contre très rapidement il a été restructuré pour assurer notamment le cycle de combustible avec son entreprise Cogema, pour aussi en fait s'investir dans Superphénix et puis dans les nouvelles technologie, donc liée à la surgénération.
Pourquoi est-ce qu'il fallait s'investir si rapidement dans les nouvelles technologies ? C'était déjà obsolète avant même d'être lancé ?
Non, c'est pas que c'était déjà obsolète, mais par contre, le CEA, en tout cas, s'affirmait, se relégitimait en tant que, après la restructuration qui a eu lieu en 69-70, donc en tant qu'organisme de recherche et d'innovation, en fait, pour à nouveau œuvrer donc, au rayonnement industriel et en termes d'innovation du pays.
Dans ces années-là déjà, les mêmes acteurs circulent assez volontiers entre les différents lieux. CEA, EDF, ministère.
Tout à fait. C'est une particularité de ce domaine-là que d'avoir en fait confiné les savoirs et les savoir-faire et les expertises donc dans un cercle assez restreint d'experts, donc en grande partie issus des grands corps d'État, des polytechniciens, donc ayant des carrières cycliques, qu'on peut dire, si on peut le dire. Donc effectivement, travaillant tantôt à EDF, tantôt au CEA et tantôt auprès des ministères ou des services ministériels, donc chargés du contrôle de la sûreté, du contrôle de la gestion des déchets nucléaires. Donc effectivement, ça c'est ce qui a en fait finalement provoqué toute la dénonciation autour de la nucléocratie, autour des nucléocrates, et aussi même dénonciation aussi d'une expertise incestueuse donc de la part de certains contestataires, puisque effectivement on a observé notamment pendant les premières années du programme un fort conflit d'intérêts en termes de ceux qui devaient contrôler la filière, donc notamment les experts du CEA repliés un peu sur ce rôle-là, et ceux qui en même temps le promouvaient, donc aussi le CEA à côté d'EDF.
Et voilà que vous venez de faire rentrer les empêcheurs de tourner en rond, Cézine Topchu, les contestataires, dont effectivement on n'a pas encore parlé. Quand est-ce qu'ils ont surgi et de quelle manière ?
En fait, la contestation de l'énergie nucléaire dite civile en France existe déjà, mais dans une moindre mesure dans les années 60, avec les premières associations qui émergent, notamment autour de Jean Pinheiro, par exemple, qui est un peu le pionnier de ce mouvement-là, et qui attire l'attention sur non seulement le risque lié à l'arsenal nucléaire, mais aussi le risque de la radioactivité artificielle de façon générale. Mais c'est notamment à partir de 69-70 qu'on va en fait assister à l'émergence de premiers groupes écologiques autour de Survivre, autour des journaux comme Gueule ouverte, autour de journalistes comme Fournier, en fait, qui organisent les premières manifestations à Bugey, puis ensuite à Fessenheim. Donc ce sont les premières marches antinucléaires, en fait, massives d'une certaine façon, qui ont lieu en France. Puis à partir de 1974, c'est-à-dire l'annonce officielle du plan Messmer, donc un plan gigantesque qui crée un choc, parce que c'est une nucléarisation tous azimuts du pays dont il est question, sans que les questions des risques soient discutées au préalable. parole. Et c'est là qu'en fait, on assiste à la prise de parole d'arènes très diverses. Donc, non seulement des premiers écologistes, mais aussi au niveau local, auprès des populations locales, aussi au niveau scientifique, parce qu'on assiste à la prise de position d'environ 4000 scientifiques, donc issus du Collège de France, du CNRS, d'Orsay, qui, en fait, alertent sur la taille démesurée du plan Messmer. On assiste aussi à la prise de position, et ça, c'est chose singulière, je crois, en France, d'un syndicat comme la CFDT, CEA, CFDT du CEA et d'EDF, qui prend position contre le plan Messmer aussi, pour dire que finalement, d'une part, que c'est un programme, encore une fois, non réfléchi, mais aussi, il y avait la question de capitalisme américain qui était énormément mis en avant, puisque ce programme-là devait se baser, comme on vient de le dire, sur une technologie américaine, mais aussi était dépendante de l'uranium américain, du moins pendant ses premières années, puisque l'usine EuroDIF n'était pas encore à pointe.
Alors, vous venez de citer l'anti-américanisme, et ça veut dire qu'il y a également des partis politiques, et donc plutôt les partis de gauche, qui se prononcent contre le nucléaire ?
En fait, effectivement, à partir de 1975, on assiste aussi à la prise de position de partis politiques. Là, on observe que notamment le PSU de l'époque, effectivement, prend une position contre le programme électronucléaire. Le PC, le Parti communiste, reste favorable. Le Parti socialiste reste vigilant, mais non opposé au programme électronucléaire, ce qui va changer à partir de 1977 à peu près. Du côté de la droite, on n'observe pas en fait une opposition au programme nucléaire.
La droite est au pouvoir et c'est elle qui lance le programme. Donc effectivement, on imagine que la droite soutient à cette époque-là le programme nucléaire, ou dès cette époque-là, le programme nucléaire. Tout de même, quand on vous entend, on a l'impression que c'est une vaste partie du public à travers les partis politiques, les syndicats, les nouveaux mouvements.
Qui, on a oublié les élus d'ailleurs, on a oublié les élus parce que ça aussi c'est une particularité de ce mouvement-là, de cette époque qui en a fait un mouvement national, puisque dans bien d'endroits, autour de bien de sites, les élus locaux en fait se sont fortement opposés au projet nucléaire.
En se basant sur quoi ?
En se basant d'une part donc, sur les arguments développés évidemment par le milieu scientifique. Le milieu scientifique a joué dans ce cadre un rôle primordial en fait, de contre-expertise pour le mouvement anti-nucléaire. Et d'autre part également sur l'opposition des populations locales, puisque c'est d'elles dont dépendait leur évidemment prochain mandat d'élu. Ça, il faut pas nier cela aussi.
Alors Cécile Topciu, vous venez d'employer le terme de contre-expertise, mais il me semble que c'est presque un peu trop tôt dans notre histoire, puisque vous allez nous démontrer dans quelques instants qu'on est passé d'une critique très large, un peu tous azimuts, à effectivement quelque chose qui s'est davantage expertifié, expertisé, et qui s'est en même temps un peu restreint, peut-être. Alors, ce rôle d'accompagnement des scientifiques, il a été effectivement très important pour le mouvement contestataire du nucléaire. Il a aussi joué un rôle non négligeable du côté des tenants de la nucléarisation de la France. Ça les a beaucoup inquiétés.
Ça les a énormément inquiétés, puisqu'il faut se souvenir du fait que, en fait, dans les années 70, l'État et les organismes nucléaires ont disqualifié les contestations en avançant en premier lieu l'argument selon lequel l'opposition aux centrales nucléaires serait issue d'une ignorance du public, d'une posture d'irrationnel d'une certaine façon. Et d'ailleurs, là-dessus, EDF, entre autres, s'appuyait largement, par exemple, sur les arguments avancés dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 1958, où en fait les experts de l'OMS quasiment associaient l'opposition à l'énergie nucléaire à une peur pratiquement issue de santé mentale ou de problèmes de santé mentale. Et dans ce contexte-là de délégitimation absolue de toute contestation, arrivent 4000 scientifiques accompagnés des syndicalistes. D'ailleurs, on a oublié les économistes de Grenoble aussi, qui aussi, eux aussi ont pris une position tout à fait critique vis-à-vis du programme, ce qui évidemment crée un réel choc pour les organismes nucléaires qui étaient tellement sûrs du côté incontestable de leur savoir et de leur expertise, et voilà qu'en fait, à l'intérieur même du sérail, ils sont mis en cause et ils sont d'une certaine façon obligés de reconnaître qu'eux-mêmes, à l'intérieur, enfin, entre eux, mais ça n'était pas médiatisé jusqu'alors, n'étaient pas tout à fait d'accord sur les bienfaits de l'atome, ou en tout cas sur les bienfaits d'un programme aussi massif.
Mais tout de même, vous avez cité un nombre d'acteurs assez impressionnant et très disparates, des économistes, des élus, des citoyens antinucléaires, des écologistes, des partis de gauche et des scientifiques, bien entendu. Est-ce à dire que tout ce public-là s'est rallié derrière la bannière des scientifiques pour adopté une sorte de discours scientifique, même si ça n'était pas un discours de sachant ou de savant, ou bien est-ce que la critique était plus vaste?
La critique était extrêmement hétérogène, extrêmement riche et élaborée à partir de causes d'engagement très diverses, en fait. Pour certains, c'était précisément une critique sous forme d'opposition à la droite, au pouvoir. Donc, en fait, c'était précisément une prise de position idéologique, donc de type confrontation, affrontement droite-gauche. Pour d'autres, c'était des enjeux plus locaux, pour notamment les riverains, les populations locales, parmi lesquelles, d'ailleurs, on trouvait dans certains cas, comme Nogent par exemple, des personnalités tout à fait conservatrices, pour ne pas dire dans certains cas réactionnaires. Et pour d'autres encore, c'était plus une lutte en fait anti-technocratique, anti-autoritaire, notamment pour les groupes écologistes émergents comme les Amis de la Terre, mais aussi pour le syndicat de la CFDT, qui en premier lieu mettait en cause en fait le problème d'expertise qu'on observait dans ce domaine-là. Donc on assistait à un éventail très large de causes d'engagement et non pas à un alignement sur des arguments proprement scientifiques, ce qui a fait que finalement, l'argument général qu'on entendait dans l'espace public pendant cette période-là, c'était la revendication selon laquelle il fallait évoluer l'énergie nucléaire en tant que choix de société, et non pas à partir des débats entre experts et contre-experts qui étaient d'ailleurs tout à fait refusés par un nombre d'acteurs, y compris les acteurs scientifiques, y compris les scientifiques engagés donc, contre le programme électronucléaire, qui craignaient précisément que justement ça puisse se transformer en un débat technique, puisque c'est à peu près ce que voulaient, si on peut dire, les organismes nucléaires. C'est-à-dire, eux, ils voulaient uniquement prendre comme interlocuteurs ceux qui pouvaient tenir des arguments techniques, en fait, contre le programme électronucléaire, ce qui était problématique, puisque pour les riverains, il n'y a pas besoin à chaque fois d'être expert pour pouvoir s'y opposer, effectivement.
Alors, c'est là que la première confrontation, en quelque sorte, ce premier mouvement de cette danse, de ce ballet, a lieu, puisque, de fait, les institutions avaient un vaste programme sur la table. Il s'agissait de construire, et elles avaient affaire à une contestation protéiforme, multiple, un peu en tout lieu, de toutes parts, et avec des voix très disparates aussi. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris pour tout de même arriver à construire en un temps extrêmement rapide un certain nombre de centrales ?
Très brièvement, en court-circuitant la critique, en fait. Et c'est ce que j'appelle le gouvernement par l'urgence, voire par le fait accompli. C'est-à-dire, dès que le gouvernement s'est rendu compte que les contestations prenaient de l'ampleur, il a choisi d'aller au plus vite, en fait, pour mettre en place les chantiers. Et ainsi, à partir de 1974, on a assisté à la mise en place de 6 à 8 chantiers par an. Ce qui a fait que finalement, jusqu'en 1979, on en avait une trentaine déjà, en fait, sur 8 sites répartis donc, dans l'ensemble du territoire. Donc, on a essayé d'aller au plus vite possible avant que les contestations puissent venir en fait contrecarrer les projets d'EDF.
On peut saluer la prouesse technique que ça représente, mais on peut aussi observer, Céline Topchu, comme vous le faites, que ça a demandé un certain nombre d'ajustements des lois, des règles et des systèmes d'autorisation, de délivrance de permis, etc.
Tout à fait. On s'est appuyé sur un nombre varié de dispositifs, en fait, qui devaient permettre cette politique du gouvernement par l'urgence. D'une part, en fait, en France, on a assisté à partir de 1975 à une réglementation qui a permis la construction en environ 6 ans, en fait, des réacteurs nucléaires, alors qu'aux États-Unis, il fallait, par exemple, à l'époque, attendre 10 ans, ou en tout cas envisager 10 ans pour les constructions. On a assisté à des procédures d'enquête publique tout à fait problématiques qui n'ont été un peu modernisé qu'à partir de 82-83, donc après que une bonne partie des réacteurs nucléaires étaient déjà entamés. On a assisté également à une arène judiciaire qui s'est en fait avérée tout à fait imperméable vis-à-vis de la critique, puisqu'il faut savoir que dès 1975, les contestataires en fait déposent énormément de plaintes contre les projets d'EDF. Une trentaine de plaintes ont été déposées, d'une part parce que les chantiers avaient démarré avant d'attendre les déclarations d'utilité publique, d'autre part ces déclarations d'utilité publique s'avéraient elles-mêmes en fait problématiques, puisque par exemple les études environnementales n'ont été intégrées aux enquêtes publiques qu'à partir de 1978, donc assez tardivement. Par contre, la sphère judiciaire a presque dans tous les cas, considérer en fait vaines ces plaintes-là, en s'appuyant sur les arguments d'EDF qui, à chaque fois, a pu en fait revalider ses choix et ses stratégies donc, de construction, soit par exemple en disant que lorsqu'il a démarré, elle a démarré les chantiers, que les terrains lui appartenaient, ou alors que les sondages qu'elle faisait de toute façon étaient réversibles. Donc en fait, c'était les arguments tenus par les avocats d'EDF qui finalement n'ont pu convaincre la sphère judiciaire, qui n'a pas cherché en fait à aller plus loin, puisqu'elle ne disposait pas non plus d'une expertise, et puis elle se considérait elle-même garante de l'intérêt général et donc était presque au même niveau convaincue de la nécessité de ce programme pour l'intérêt général du pays.
Parce que de fait, il y a eu cette mainmise sur le judiciaire en France, mais il y a eu en même temps des légitimations des critiques et des contestataires, ces Intopchu, qui étaient renvoyés à leurs petits intérêts égoïstes et privés face à la grandeur de l'intérêt général et à la grandeur de la nation.
Tout à fait. La figure de l'antinucléaire, dans cette période, a été presque forgé dans un cadre professionnalisé en fait par les organismes nucléaires qui d'ailleurs ont fait abondamment recours aux sciences sociales dans ce cadre précis. EDF par exemple à partir de 72 met en place une équipe interdisciplinaire pour étudier le mouvement antinucléaire et pour ensuite donc développer des stratégies de communication pouvant contrecarrer cette contestation là. C'est là qu'on observe l'embauche de sociologues, des psychosociologues, de linguistes, des sémiotologues, etc. Qui finalement, en fait, ont pu développer un discours alternatif au discours, par exemple, tenu par des sociologues comme Alain Touraine, qui insistait sur la force du mouvement antinucléaire, alors que les sociologues d'EDF insistaient au même moment sur, justement, le côté marginal des contestations, sur le fait que l'antinucléaire était d'abord celui qui était irresponsable, mais aussi presque néo-malthusien, car contre l'énergie, contre la modernité, contre tout ce qu'on veut, en fait, donc une figure archaïque qu'il fallait en fait combattre d'une certaine façon pour le bienfait du pays. Donc l'écologisme d'une certaine façon était considéré comme étant dépassé. Il fallait fabriquer l'homo economicus contre l'homo ecologicus, tel que donc les organismes nucléaires voyaient les choses à l'époque.
À quoi il faut ajouter un petit volet économique, puisqu'il s'agissait tout de même de convaincre les élus. On a parlé des élus tout à l'heure, mais eux aussi. On a réussi à les convaincre d'accepter la construction de ces énormes forteresses sur leur territoire.
Tout à fait. Donc, effectivement, cela a pu être réalisé notamment par des dispositifs type taxe professionnelle qui a en fait constitué un argument de premier plan pour convertir les élus à la cause nucléaire, puisque cette taxe professionnelle devait en fait permettre le développement des communes accueillant les centrales nucléaires. Il y a eu en fait énormément de promesses en termes de facilités type centres sportifs, notamment les piscines par exemple.
Les piscines olympiques.
Les piscines olympiques.
Ce que je trouve particulièrement drôle dans la mesure où c'est un des arguments d'EDF concernant les déchets nucléaires, c'est qu'ils tiendraient tous dans une piscine olympique. Quand on voit le nombre de piscines olympiques qui ont été construites avec cet argent-là, c'est quand même assez exceptionnel.
Oui, donc la piscine olympique effectivement n'était un instrument magique parce qu'effectivement ça devait résoudre à la fois le problème des déchets, à la fois le problème de l'opinion publique. Et à cela s'ajoutaient aussi des contrats tout à fait particuliers qui ont été passés dans certaines régions, notamment autour de la centrale de Golfech où les élus socialistes par exemple étaient énormément opposé au demeurant au projet, mais que EDF a pu contrecarrer cette opposition des élus en proposant un accord tout à fait spectaculaire, donc économique, d'aide au développement de la région.
10 millions de francs par an pendant la construction de la centrale, puis 6 millions de francs par an ensuite pendant toute la durée d'exploitation de la centrale.
Bravo, vous avez fait une excellente lecture du livre, effectivement. Mais c'est un accord effectivement historique qui permet d'expliquer, entre autres, en fait, comment cette conversion des élus opposés au projet a pu s'amorcer.
N'oubliez pas de préciser, c'est une Intopchu, qu'en général, on choisit des localités plutôt petites, plutôt rurales, avec peu d'habitants. Et donc, ces sommes sont encore plus colossales, encore plus considérables. Et l'opposition y est encore plus facile à étouffer.
Tout à fait. Ou alors, lorsque EDF se rendait compte du fait qu'une opposition était très difficile à contrecarrer, elle changeait simplement en fait, de lieu d'implantation.
Quelques kilomètres.
Voilà.
On a donc vu une institution ou un groupe d'institutions particulièrement décidé à mettre à exécution son projet, puisque les recours ont été économiques, judiciaires, sociologiques, politiques, militaires, dites-vous ?
Militaires, en tout cas policières, parce qu'il y a aussi la répression qui a joué un rôle incontournable dans l'essoufflement en fait, du mouvement antinucléaire français. C'est notamment les événements de Malville de 1977 qui en fait marquent un tournant pour le moment. Je rappelle que c'était des manifestations massives donc, contre le sous-générateur Superphénix, rassemblant plus de 100 000 personnes donc, pendant l'été 1977, manifestations qui ont été en fait contournées par un recours démesuré aux forces de l'ordre qui finalement ont en fait dégénéré d'une certaine façon puisqu'il y a eu plus de 100 blessés et un mort en fait après cette énorme manifestation-là. Donc un événement tragique après lequel le monde antinucléaire a dû réfléchir deux fois pour pouvoir en fait puiser de ses forces.
Et puis quelques années plus tard, un ou peut-être même deux coups de grâce pourrions-nous dire, on va voir. Mais avant d'en venir à cette seconde période, Cézine Topchu, je voudrais rappeler ce que nous disions au début de cet entretien, le fait qu'on n'avait pas toutes les cartes en main. On ne savait pas exactement, on ne savait pas au moment où ce programme civil a été lancé, qu'il était préparé de longue date. Ça se passait dans le secret des cabinets et tout le monde n'était pas informé, même en haut lieu. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à souligner. De nouveau, avec ce tournant pris avec l'élection de François Mitterrand en 1981, on a le sentiment qu'on n'avait pas toutes les cartes en main, puisque, je le rappelle, le Parti socialiste en 1977 s'était rapproché des écologistes, avait pris des positions assez clairement ou ouvertement antinucléaires, et il y avait la promesse d'un référendum. Paul Quillès, qui était à l'époque le porte-parole du PS sur les questions d'énergie, était manifestement, lui, antinucléaire. Et François Mitterrand avait pris un certain nombre d'engagements. Engagements qu'il n'a pas tenus. Et là, de nouveau, je le répète, on n'a pas toutes les cartes en main.
Tout à fait. Donc, à la veille des élections présidentielles, le PS a donc préparé un programme de nucléaire alternatif ou un programme énergétique, en fait, très, très critique vis-à-vis du programme électronucléaire, dans lequel il était, en fait, prévu que, déjà, que le Superphénix ne soit pas construit, que les contrats étrangers à la Hague soient tous supprimés, puisqu'en fait, il était question à l'époque de l'extension de l'usine de la Hague pour que les déchets étrangers puissent y être retraités. Aussi, il était question donc à l'époque dans ce programme-là d'organiser un débat national sur l'énergie nucléaire qui devait être suivi d'un référendum. Et malheureusement, en fait, dès que le PS est arrivé au pouvoir, donc avec toutes ces promesses-là qui, à vrai dire, ont vraiment suscité un énorme espoir en fait dans le milieu des antinucléaires, le PS, une fois arrivé au pouvoir, en fait très rapidement donc procède à un revirement de ses promesses. D'une part, par exemple, le débat national sur l'énergie nucléaire suivi d'un référendum qui était promis va être rapidement remplacé par un débat parlementaire qui va plutôt servir à en fait entériner le choix nucléaire. Superphénix, on n'y a pas touché. Et puis aussi l'extension de l'usine de la Hague a été très rapidement signée donc par le gouvernement socialiste. Deux seuls gages qui ont été accordés au monde antinucléaire concernent le site de Plogoff qui en fait a fait l'objet, il faut le dire, d'une quasi-guerre civile sur place en 80 en fait, notamment pendant le déroulement des enquêtes publiques. On assiste à une confrontation absolue entre donc les opposants et l'administration qui a eu un énorme mal en fait pour pouvoir tenir même ces enquêtes publiques là. Tous les dossiers étaient déchirés, les mairies n'acceptaient pas de les mettre en place. Donc des milliers annexes, on était par exemple dans des caravanes, on était mis en place pour procéder à ces enquêtes, etc. Donc Plogoff, il fallait de toute façon en fait y renoncer.
C'était une plaie.
Voilà, donc Plogoff était une plaie, il fallait y renoncer. Puis après, il y a le site de Pellerin qui était très contesté puisque c'était une zone très précieuse en fait en termes d'écologie. Et finalement, en fait, on l'a remplacé par le site de Carnet. Donc voilà, ce sont les seuls gages qui ont été, disons, donnés par le pouvoir socialiste pour ensuite mieux rebondir pour la construction des centrales nucléaires qui n'a pas, en fait, rencontré un ralentissement réel.
Avec peut-être deux conséquences marquantes du côté de la contestation. D'abord, un certain désarroi, d'autant, vous le soulignez très bien, qu'effectivement, la contestation antinucléaire étant plutôt de gauche, il y a eu une sorte de difficulté tout à coup à se retrouver en opposition avec le gouvernement de gauche qui était arrivé au pouvoir. On l'avait en quelque sorte investi de la responsabilité de ce dossier-là et il y a eu une forme d'attentisme. Et puis, du côté de la critique scientifique, vous n'avez peut-être pas assez expliqué, Cézine Topchu, de quelle manière cette critique-là avait été très finement découpé, je dirais, au ciseau et écarté légèrement du reste de la contestation.
Tout à fait. Une des forces du pouvoir mitterrandien, en fait, a consisté à faire bon usage de cette critique-là, qui était considérée la plus rationnelle parmi tout ce qui existait donc, sur la place publique. Et en fait, Mitterrand, donc, très rapidement, s'est entouré de scientifiques en fait, critiques, des syndicalistes critiques du programme, pour les intégrer à la bonne gestion de l'énergie nucléaire, puisqu'il faut rappeler qu'à partir de 1977, le PS s'appuie notamment sur la répression de la droite pour pouvoir en fait, se rebondir sur ce dossier nucléaire, pour pouvoir dire que finalement, nous, on ne va pas faire comme eux, on va moderniser en premier lieu cette gestion-là, on va instaurer le dialogue.
Mais alors, ça veut dire que les scientifiques ont tourné casaque ? Non, c'est pas ça.
Non, les scientifiques ont été en fait intégrés en dialogue avec le pouvoir, ce qui est normal puisque une bonne partie aussi a soutenu en fait l'arrivée de la gauche au pouvoir, évidemment, mais que en fait il y a eu très rapidement la mise en place des dispositifs institutionnels, type l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui était une réforme importante à l'époque, à laquelle en fait Mitterrand a donc placé les plus importants syndicats. Les administrateurs les plus en avant du mouvement anti-nucléaire, notamment Bernard Laponche, Michel Roland, etc.
Donc, mais de fait, ils ont eu un rôle important puisqu'ils ont mis en place des programmes d'économie d'énergie, ce qui était une grande première en France.
Tout à fait. C'était aussi, dans une certaine mesure, une victoire, bien sûr, pour cette critique-là, critique syndicale et scientifique, que de pouvoir agir de l'intérieur des institutions. Sauf que là où ils ont pu effectivement s'émanciper en ouvrant un nouvel espace de contrôle pouvoir, de critique, ils sont rapidement devenus gênants vis-à-vis des organismes nucléaires, vis-à-vis des corps des mines notamment, puisque la FME, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui est un peu l'ancêtre de l'ADEME actuelle, a pu imposer une politique par la demande et non plus par l'offre pendant ses premières années d'existence. Mais très rapidement, en 86, ses principaux administrateurs en fait sont remerciés puisqu'ils sont devenus gênants.
Donc ce qui est important dans ce que vous dites là, c'est qu'il y a eu l'ouverture d'espaces de dialogue qui étaient destinés non pas à créer une véritable discussion, mais plus exactement à, en quelque sorte, enfermer dans une enceinte la contestation et faire que les débats se passent à l'intérieur de cette enceinte et qu'il n'ait pas trop de répercussions à l'extérieur. C'est bien ça. Et en même temps, lorsque la contestation allait trop loin, eh ben on supprimait purement et simplement les gêneurs. Donc des espaces de dialogue qui n'en sont pas tout à fait.
Des espaces de dialogue et des débats qui n'en sont pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu ce débat national, par exemple, qui devait permettre une réévaluation du programme électronucléaire, du choix nucléaire, mais il y a eu comme ça, effectivement, des espaces plus spécialisés, plus expertisés, type commission locale d'information, qui finalement, pour la plupart, en fait, on visait notamment à réorienter les acteurs critiques vers une co-gestion des risques de l'énergie nucléaire. Donc il fallait désormais plus trop insister sur la réévaluation du choix nucléaire, mais plutôt veiller à ce que ça fonctionne bien, que ça soit moderne, que l'information soit en place pour le public, etc., ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait réussi.
Non, puisque vous parlez d'information, mais le secret avait toujours une place de choix.
Tout à fait. Et quand on prend par exemple le cas des commissions locales d'information qui fleurissent avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, en l'espace de 2-3 ans, ces commissions locales d'information sont pour la plupart désactivées, puisque justement cette information dont on s'est vanté, cette information pluraliste, n'a pas pu être élaborée. Les commissions locales d'information n'ont pas eu les moyens nécessaires pour le faire, n'ont pas eu les moyens d'expertise non plus, et se sont en fait avérées extrêmement dépendantes des exploitants nucléaires.
Pendant ce temps-là, Céline Topchu, les fameux sociologues, linguistes et autres psychologues que vous évoquez ne chômaient pas, eux non plus.
Pendant ce temps-là, évidemment, se poursuivait une mesure tous azimuts, en fait, de l'opinion publique française, parce que une des retombées les plus importantes de cette période contestataire, en fait, a été la professionnalisation des instruments de gouvernement de l'opinion, donc auprès des organismes nucléaires. Dans la décennie 70, on a assisté à un nombre impressionnant, en fait, de sondages, de mesures de l'opinion, 3 fois plus que le nombre qu'on avait eu en fait pendant le quart de siècle précédent. Donc vraiment impressionnant auprès du public national, mais aussi auprès de chaque site pour pouvoir voir quelles étaient les orientations, les évolutions donc des réactions.
Mais dans quel but exactement ?
Dans quel but ? C'est pour pouvoir déjà contrôler, c'est déjà le contrôle qui était effectivement le premier mot d'ordre, et puis pour pouvoir agir, c'est-à-dire là où on n'arrivait pas à très bien contrôler l'adhésion au nucléaire, ben, il fallait lancer des campagnes d'information, il fallait encore éduquer le public qui comprenait pas justement le bienfait de l'atome, entre autres. Et dans ce cadre précis...
Éduquer ou endoctriner ?
Endoctriner aussi, on peut dire éduquer, effectivement, c'est un euphémisme. Mais par exemple, EDF se rendait compte que déjà, dans les sites où elle a pu aller très vite pour mettre en place des chantiers, les oppositions s'estompaient beaucoup plus rapidement que dans d'autres sites où elle avait un petit peu traîné.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, effectivement, la dynamique des contestations fait que, finalement, lorsque les centrales nucléaires, qui sont des gadgets, en fait, tout à fait irréversibles, contrairement aux OGM, où on peut aller les faucher, bien, en fait, ça crée effectivement de désespoir, de découragement chez les militants. Une autre donnée qui était recueillie, par exemple, par ces sondages, était que, contrairement aux décennies précédentes, dans cette décennie des années 70, en fait, EDF remarquait que l'opposition ne venait plus, comme on vient de dire, seulement des gens ignorants et ça, mais même très particulièrement des gens tout à fait instruits, de la classe moyenne, des instituteurs étant par exemple au devant de la scène. Donc EDF a intensifié vraiment énormément sa campagne d'information auprès des écoliers, auprès des instituts. Les écoliers étaient en fait amenés massivement pour des visites de centrales qui en fait est devenu un truisme incroyable pendant cette période-là.
Vous dites que ça a été aussi une période de désacralisation, qu'après la période des cathédrales nucléaires, de ce faste versaillais qui avait entouré le démarrage du programme, on est arrivé à un petit nucléaire pépère, bonhomme, tranquille, sympa, truc de tous les jours.
Tout à fait. En fait, on assiste à une politique que j'ai appelée de désacralisation du nucléaire qui a consisté à banaliser le terme nucléaire, banaliser la centrale nucléaire au même titre que d'autres centrales thermiques. Par exemple, les spécialistes de l'opinion d'EDF se demandaient même s'il ne fallait pas arrêter de parler de centrale nucléaire pour parler de chaudière, par exemple, entre autres. Donc, effectivement, c'était toute une période de travail politique intense sur les mots du nucléaire, sur la façon de communiquer en fait sur l'énergie nucléaire pour que le public justement ne s'affole pas, mais que s'accoutume en fait à cette technologie qui était considérée comme étant indispensable, inévitable, incontournable.
Beaucoup d'efforts et un certain succès, puisque de fait, vous le disiez, la contestation anti-nucléaire s'est essoufflée, le public s'est à peu près résigné, vous avez parlé tout à l'heure du désespoir devant les centrales construites, effectivement elles étaient là, il y avait plus grand chose à faire, et la contestation est retombée. Et on aurait pu imaginer, Céline Topchu, qu'elle flambe à nouveau ce mois d'avril 1986 avec l'accident de Tchernobyl, mais non.
Mais non, et en fait, les raisons en sont multiples, entre autres liées évidemment à la dynamique même des mouvements sociaux et des organisations écologistes de ce temps-là qui avaient divers problèmes internes d'organisation, notamment on peut penser à Greenpeace, on peut penser aux Amis de la Terre qui étaient de toute façon affaiblis dans leur combat écologique, mais plus important que ça, je crois, était le rôle joué justement par le recours absolu au secret que l'État a préconisé pendant cette période post-Tchernobyl, puisqu'il faut rappeler le fait que la France s'est en fait prouvée singulière dans ce domaine-là d'information du public en refusant de diffuser les mesures de contamination, en même suggérant, même si ça n'a jamais été dit très ouvertement, mais qu'en suggérant, tout le monde s'en souvient encore, que le nuage a pu presque s'arrêter aux frontières nationales, donc que la France a été épargnée.
C'est devenu presque une plaisanterie, cette histoire de nuage, Céline Topchu, mais ce qui est beaucoup plus grave et plus important, c'est que, vous le dites, les mesures, elles étaient faites, et elles étaient faites pas uniquement par les instances nucléaires, mais par tout un tas d'organismes divers et variés. Je pense à ces bureaux, la DSV, je crois, la Direction de la Santé Vétérinaire, ou tous ces organismes agricoles ou autres, qui faisaient des mesures de toute façon et qui ont obéi à l'ordre de ne rien communiquer, c'est-à-dire que c'est tout l'appareil administratif, fonctionnaire, ministériel de l'État qui a obéi comme un seul homme.
Tout à fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'en fait, effectivement, on assiste pendant cette période à une omerta totale autour de cette question nucléaire.
À quoi il faut ajouter, excusez-moi, mais les médias qui ont joué un rôle aussi absolument hallucinant pour endormir tout le monde.
Tout à fait. Les médias, effectivement, on était seulement à suivre la parole de Service central de protection contre les rayonnements ionisants, donc qui était considéré comme la seule instance donc compétente pour informer le public sur le sujet. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que moi j'ai suivi de près tout ce qui a été écrit par les médias pendant ces 2-3 mois après l'accident. En fait, les journalistes rapportaient abondamment toutes les mesures qui étaient prises en Allemagne, en Italie, en Autriche, sans jamais se demander comment ça se faisait qu'en France il était normal de ne prendre aucune mesure, même les plus simples, type lavez vos salades, ne donnez pas à vos enfants du lait frais, ou, enfin préférez le lait en poudre. C'est ce que j'appelle la normalisation, tous azimuts en fait, du secret nucléaire dans le corps social. Donc une sorte de corps social presque anesthésié par cette idée que, en fait, il ne faut pas trop s'inquiéter, puisque toute la communication de la décennie précédente était misée sur cela.
Normalisation réussie, puisque même les manifestations qui ont été appelées à ce moment-là, ont réuni très très peu de participants, elles n'ont eu quasiment aucun succès, alors que dans les pays voisins, les manifestations étaient gigantesques. Mais attendez, excusez-moi, juste avant de vous passer la parole, je voudrais revenir là encore sur ce que vous disiez au début de l'entretien, cette façon dont dans les années 60, on a transféré les responsabilités de l'industriel, du fabricant donc, d'énergie nucléaire, à l'État et donc, somme toute, aux citoyens, aux contribuables et aux citoyens. Et là, ces programmes Ethos, Core, vont largement au-delà encore de ce transfert de responsabilités, puisqu'on fait dorénavant porter le poids de l'accident sur les populations. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qui s'est passé là ?
À partir du milieu des années 90, en fait, l'industrie nucléaire a compris qu'il était préférable de ne pas insister sur les relogements pour les populations évacuées donc, de Biélorussie après l'accident de Tchernobyl, puisque ça coûte énormément, en fait. La Biélorussie, par exemple, a dû réserver un quart de son budget national pour les indemnisations, pour les relogements. Et finalement, ça s'avère tout simplement impossible financièrement et techniquement, en fait, puisqu'il ne reste pas non plus énormément d'endroits très propres dans ce pays-là pour pouvoir reloger les gens. Donc, en fait, donc les experts européens, français, européens ont commencé à imaginer, c'était une politique dite de réhabilitation participative, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas participer les victimes finalement à la gestion de leur quotidien, et comment ça se passe ? Ça se passe par l'utilisation en fait quotidienne des compteurs GGA, donc un contrôle quotidien de la radioactivité, une maîtrise quotidienne de ce qui est en fait consommé en termes d'alimentation et des lieux en fait fréquentés, donc pour pouvoir minimiser en fait le risque radioactif, puisque c'est le terrain miné au quotidien. Enfin, les gens sont obligés de vivre puisqu'ils ne peuvent pas être logés. Il n'y a pas d'alternative, sauf pour ceux qui sont effectivement riches et qui peuvent aller ailleurs. Mais pour les gens qui n'ont pas les moyens, il y a nécessité de gérer cela comme ça. Et ensuite, cette approche-là est devenue en fait assez prenante, assez valorisée, puisqu'elle est considérée comme presque la seule possible en fait pour pouvoir gérer cette contamination durable post-accidentale.
De fait, c'est ce qui se passe aussi à Fukushima aujourd'hui.
C'est ce qui se passe aussi à Fukushima. Et le mot d'ordre devenant donc le retour à la normale, qui est un leurre, parce que évidemment il faut dire que à Fukushima, au nord du Japon, comme en Biélorussie, c'est quand même avant tout une catastrophe écologique et humaine, et il n'y a pas de retour à la normale possible, mais simplement des ajustements possibles. Et évidemment, ce qui est en cause, ça n'est pas d'aider les gens qui sont obligés de rester à s'approprier cette difficulté avec divers moyens, mais ce qui est en cause, c'est certainement que ce destin-là, qu'ils n'ont pas forcément choisi, soit considéré et lancé en tant que solution possible en cas d'accident grave en Europe, en France, et c'est cela qu'il faut combattre.
Tout ça, Cézine Topciu, au nom d'une grande transparence, nous sommes tous devenus co-gestionnaires de la catastrophe qui plane sur nous, qui de temps en temps fond sur nous, effectivement, à Tchernobyl, à Fukushima. Nous sommes dorénavant invités à considérer l'accident comme non pas une hypothèse ou une éventualité, mais comme une quasi-certitude. Ça va arriver. C'est pas grave, on va apprendre nous aussi à doser combien on donne de becquerel à nos enfants quand on leur donne à manger, à boire. On va apprendre à leur interdire de sortir plus de 2 heures parce qu'il faut qu'ils restent à la maison où c'est moins contaminé. On va apprendre tout ça. C'est ça la transparence, Céline Topchu?
C'est en tout cas la nouvelle langue qui sous-tend ce type de discours, c'est-à-dire qu'on prétend que désormais, avec ce dialogue que va permettre l'engagement, l'implication des gens pour gérer le risque, le nucléaire soit devenu ouvert, qu'en fait on cache rien, on dit tout, alors qu'effectivement derrière il y a un désespoir total, y compris au niveau politique, et aussi une courte vue totale, puisqu'on oublie que ces choix technologiques sont d'abord des choix des gens, c'est d'abord des choix qui sont faits et qui ont pu être faits autrement
et qui pourraient être défaits.
Encore être défaits et refaits.
Pour ça, il faudrait qu'il y ait enfin de véritables espaces de débat. Alors en France, on a depuis quelques années des débats publics, mais on les évoquait la semaine dernière à propos des déchets nucléaires, mais ces débats sont aujourd'hui désertés. En fait, ce sont des débats sans débat et sans acteurs, désertés par ceux qui pourraient y aller.
En fait, comme on l'a dit, dans le domaine nucléaire français, la société civile demande un débat national depuis maintenant plus de 40 ans. Et ce débat national, au sens vraiment noble de débat, n'a toujours pas eu lieu, puisqu'on peut même dire que la France est devenue la championne d'organisation de débat après avoir pris les décisions en fait, qui devaient non pas précéder, mais succéder à ces débats-là. Et dès lors, il y a évidemment l'exemple du débat public sur l'EPR qui était un fiasco total, puisque les décisions étaient déjà prises, donc c'était pas étonnant. Et à cela, il n'est pas étonnant non plus que les organisateurs de débat ne puissent plus trouver leur public, en fait, pour faire débattre de ces questions. À Bure, récemment, les deux premiers débats publics de la CNDP ont été parfaitement sabotés. Et la CNDP se trouve dans l'impossibilité, même en fait, de mener à bien sa mission. Et du coup, ce qu'on observe, c'est une sorte de ce qu'on peut appeler une débacratie, c'est-à-dire une envie à tout prix d'organiser des débats pour le débat, pour le bien du débat, sans se poser la question de pourquoi ceux qui débattent sont jamais les mêmes que ceux qui décident, en fait. Et c'est là qu'effectivement, tous les problèmes démocratiques ressurgissent et ne cesseront de ressurgir.
On pourra lire tout ça et bien d'autres choses encore dans votre ouvrage « La France nucléaire » aux éditions du Seuil. Céline Topchu, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Terre à terre, c'est terminé. Vous pourrez réécouter et télécharger cette émission sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et même les informations sur le livre de Céline Topchu si vous n'avez pas pu tout noter. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Pascal Bénard. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.